Le texte de mon message de ce matin se trouve en Josué chapitre 3 et je vais lire les premiers versets. Livre de Josué chapitre 3. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit au sacrificateur, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges. » Et longtemps j'ai lu ce verset comme « Sanctifiez-vous pour que l'Éternel puisse faire des prodiges. » Et c'est comme ça que je comprenais ce verset, mais en fait ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Sanctifiez-vous car », c'est-à-dire Dieu va faire des choses extraordinaires et vous, eh bien soyez saints pour ce jour-là, soyez prêts pour ce jour-là, pour y participer, pour entrer dans la bénédiction, dans les miracles de Dieu. Parce que si Dieu devait attendre qu'on soit prêt, je pense qu'il attendrait longtemps. Malheureusement, on n'est jamais tout à fait prêt, on ne se prépare jamais assez. Et Dieu n'attend pas qu'on soit prêt, il agit, parce qu'il est un Dieu d'amour et d'action. Si il avait attendu que les hommes soient purs et saints pour envoyer son Fils pour nous sauver, est-ce que Jésus serait jamais venu sur la terre? S'il avait attendu que les hommes mettent leur vie en règle pour venir les sauver, est-ce que Jésus serait venu sur la terre? Non, jamais. Dieu n'a pas attendu, comme nous l'avons lu tout à l'heure, il est venu alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore sans force, alors que nous étions loin de lui, des impies, des gens qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est venu nous chercher. Et si Dieu devait attendre que les chrétiens soient réveillés pour agir, il n'y aurait rien qui se passerait dans les églises. C'est Dieu qui réveille les cœurs, c'est Dieu qui pousse les chrétiens, c'est Dieu qui agit. Maintenant, à nous de nous sanctifier pour entrer dans le programme de Dieu, pour entrer dans la bénédiction du Seigneur. Il y a des chrétiens qui passent à côté de la bénédiction. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont le pardon de leurs péchés, mais ils sont à côté de la plaque. Dieu bénit là et eux, ils sont là. Il y a des églises qui sont devenues mortes spirituellement parce qu'elles n'ont pas continué à s'accrocher au Seigneur, à regarder à lui, à prier, à prêcher l'évangile. Et elles sont passées à côté de la bénédiction et elles sont mortes petit à petit. Chaque église est menacée par la mort spirituelle, par l'extinction, l'endormissement total. Et pour qu'une église avance, il faut se sanctifier afin d'entrer dans la bénédiction. Dieu est toujours le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Il n'a pas changé. Dans l'Apocalypse, il est dit « Jésus, le Seigneur, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Bien sûr, Dieu ne fait pas forcément les mêmes miracles qu'il a fait en Israël ou qu'il a fait au temps de Jésus-Christ. Ce n'est pas forcément dans les mêmes domaines qu'il veut agir. Mais Dieu est toujours le Dieu de l'impossible. Ce qu'il fait, c'est ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le contexte de ce passage, c'est que Josué et les Israélites sont devant une page blanche. Un nouveau départ les attend. Ça fait 40 ans que les Israélites ont tourné dans le désert, conduits par Moïse et conduits par la nuée et la présence de Dieu. Dieu a demandé à Moïse de faire un temple où Dieu pouvait résider, et Dieu résidait notamment sur l'arche de l'Alliance, cette fameuse arche de l'Alliance qui était un coffre et qui se trouvait dans le lieu très saint du temple portatif. Et ici, cette arche, nous la retrouvons, elle est sortie, hein, elle est dehors, et elle est portée par les Lévites. Seuls les Lévites avaient le droit d'y toucher. Et Dieu dit, l'arche va aller devant vous, suivez-la, car vous n'avez point encore passé ce chemin. Ils n'avaient connu que le désert du Sinaï. Ils n'avaient connu que la manne qui tombait le matin pour les nourrir, et l'eau qui sortait du rocher. Ils n'avaient connu que Moïse pendant longtemps et Josué qui venait de le remplacer. Et ce qu'ils allaient découvrir leur était inconnu. D'abord, ils allaient devoir traverser un fleuve en crue. Au verset 15, hein, il est dit que le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Le Jourdain qu'ils devaient traverser pour entrer dans la terre promise était débordant, vraiment en crue. Comment passer un tel fleuve? Qu'est-ce qu'il va nous attendre de l'autre côté? Jéricho, la première ville que nous allons traverser, est une ville immense, fortifiée, avec des soldats préparés. Comment allons-nous entrer dans cette ville? Comment allons-nous vivre et manger sans la manne qui descend tous les matins? Tout ça, c'était nouveau pour ce peuple et ils entraient dans l'inconnu. Et d'une certaine façon, dans une nouvelle année, on entre dans l'inconnu. D'ailleurs, chaque jour hein, est un inconnu. Chaque jour est renouvelé, chaque jour. On ne sait pas ce qui va se passer aujourd'hui. Il peut tout arriver. Et ce qui est merveilleux, c'est d'avoir l'arche de l'Alliance qui marche devant vous. C'est-à-dire d'avoir Dieu dans sa vie qui est devant et qui ouvre le chemin. Franchement, quand on n'a pas Dieu dans sa vie, on est bien vide et on est bien seul face aux circonstances. Et on ne sait pas ce qui va arriver, c'est pour ça que beaucoup de gens essayent de consulter des voyants, des astrologues, de tirer des augures de toutes sortes, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes qui ne croient pas au surnaturel utilisent des ordinateurs pour faire des calculs de prédictions. Les économistes essayent de nous dire ce qui va se passer, et puis à chaque fois ils se trompent lamentablement. Les météorologues essayent de nous dire quel temps il va faire, et souvent ils se trompent aussi, malgré quelques puissance de calcul des ordinateurs. Mais quand on a Dieu dans sa vie, on n'a pas à s'occuper de tout ça parce que Dieu va devant nous et il marche devant nous. C'était exaltant et effrayant à la fois d'entrer dans cette terre promise. Exaltant parce que ça faisait des siècles que Dieu avait dit à Abraham, hein, je vais te donner un pays, tu vas entrer dans un pays que je te donne. Un pays où coule le lait et le miel. Et cette promesse, il l'avait transmise de génération en génération. Et là, ils allaient entrer. C'était quelque chose d'extraordinaire, d'exaltant. La promesse de Dieu allait se réaliser et ils en faisaient partie. Je pense à ceux qui sont nés au temps de la naissance de Jésus. Pas qui sont nés, je veux dire, qui ont vécu au temps de la naissance de Jésus. Rappelez-vous, lorsque Jésus a été présenté au temple, lorsqu'il était bébé, il y avait là Siméon et Anne, un homme et une femme qui vivaient près de Dieu dans le temple. Et ils étaient vieux, mais ils avaient attendu cette promesse et ils pouvaient enfin toucher le Messie de leurs mains, le voir et dire « c'est lui qui va délivrer le peuple de ses péchés ». Et nous, à quelle époque appartenons-nous? On ne sait pas, ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes à la fin de la fin. Et c'est un moment exaltant de vivre dans ces derniers jours, d'attendre le retour de Christ, d'être prêt en attendant qu'il vienne. Et en même temps, c'est effrayant, parce que là, ils allaient devoir affronter de nouveaux ennemis. Jusque-là, leurs ennemis, c'était le soleil, la sécheresse, la soif, la faim. Mais Dieu avait toujours pourvu la manne, l'eau, la protection, la direction, ils savaient où aller. Mais là, ils allaient entrer en territoire inconnu, des ennemis inconnus, même s'ils avaient envoyé des espions, des forteresses, et puis aussi toutes sortes de nouvelles tentations, des idoles, des faux dieux, des fausses religions. Tout ça, était un peu effrayant, et pour nous aussi, de vivre à cette époque est un peu effrayant parfois. Nous voyons l'islamisme grandir, envahir l'Occident et beaucoup de pays par la guerre ou par d'autres moyens. Nous voyons une nouvelle tendance dans la sexualité. Nous voyons l'immoralité grandir. Nous voyons les valeurs s'inverser. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Il y a une certaine décadence, même si c'est un mot tabou en France. On n'a pas le droit de dire que nous sommes en décadence. Mais aux yeux de la Bible, aux yeux de Dieu, c'est une décadence morale. Et vivre dans ces temps est un peu effrayant. Je pense aux parents qui disent « Je ne sais pas ce que je vais offrir à mes enfants. Dans quel monde vont-ils vivre ?» Déjà à l'école, qu'est-ce qu'ils vont affronter à l'école, au lycée ? Ensuite, dans le monde, à quoi vont-ils faire face ? Et encore, nous sommes en France, un pays républicain avec la paix, mais imaginez si vous naissez dans un pays où il y a la guerre, un pays où il y a le chaos, la dictature ou l'anarchie. Exaltant et effrayant, et ici, ils devaient quitter leur train-train. 40 ans de train-train. On tourne dans le désert, on a toujours la manne le matin, on a la fumée qui nous suit, et puis le soir, c'est la nuée lumineuse. On s'habitue, et nous sommes des êtres d'habitude. On aime bien avoir nos petites habitudes, voilà, on fait comme ça, le dimanche matin, on est là, je fais ci, je fais ça, je chante, je lis ma Bible. Bon. Et heureusement qu'il y a des habitudes, ça permet d'avoir des repères. Si tout était changé à chaque fois, ce serait assez déstabilisant. Mais l'habitude a son mauvais côté, n'est-ce pas ? C'est qu'elle nous endort. On s'endort doucement dans le train-train et au lieu d'avancer dans le pays, eh bien on s'arrête. On n'avance plus. Et d'ailleurs, ce qui est arrivé à Israël, ils ont commencé à conquérir quelques villes et puis se sont arrêtés. Ils n'ont pas été jusqu'au bout et après, ils n'ont eu que des ennuis. Dieu leur dit, maintenant, vous allez traverser le Jourdain et on va entrer dans autre chose. Dans l'inconnu, mais avec Dieu, ce n'est pas vraiment l'inconnu. Nous entrons dans une nouvelle année. N'ayez pas de crainte. Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ? Si Dieu marche devant vous, vous n'avez rien à craindre. Parce qu'il va ouvrir la voie. Vous n'avez pas à craindre le fleuve qui déborde, vous n'avez pas à craindre les murailles, les ennemis. Le Seigneur s'en occupera, l'un après l'autre. Regardez comment il s'est occupé du fleuve Jourdain. Il l'a ouvert miraculeusement pour qu'il traverse à sec. Comment il s'est occupé de Jéricho ? Il a fait tomber les murailles. Pour qu'ils entrent comme ça, sans rien faire de spécial. À chaque fois, Dieu est intervenu par des prodiges extraordinaires. Le conducteur du peuple, c'était Josué. Savez-vous ce que veut dire le nom Josué ? Notre Sauveur, Dieu notre Sauveur. Et en fait, Jésus, c'est Josué. C'est le même nom en hébreu. Joshua, Yehoshua, Dieu sauve. Et c'est notre Jésus, à nous, notre Josué à nous qui est devant, notre Sauveur, notre Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit avant de partir, de monter au ciel ? Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Voilà. Il n'a pas dit, je serai avec vous de loin la semaine ou le mois. Ou... Non, il sera avec nous tous les jours. Chaque matin, on peut se lever et dire, Seigneur, tu es avec moi. Même si la journée vous fait peur, même si vous dites, qu'est-ce qui va se passer ? Le Seigneur est là avec vous et ne vous lâchera pas. Alors, c'est à nous de quitter notre train-train, de passer à un autre niveau, d'entrer dans la terre promise, dans la bénédiction. On quitte notre petite vie chrétienne, bancale parfois, pour entrer dans une vie de foi, de conquête, une vie de prière, de combat, mais aussi de témoignage, une vie où on va voir Dieu à l'œuvre. Pour beaucoup, la vie chrétienne est un peu ennuyeuse. Pourquoi ? Parce que Ils n'entrent pas dans les prodiges de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Ils ne vivent pas par la foi. On peut être chrétien et ne pas vivre par la foi. C'est-à-dire, bien, je compte sur mon salaire qui tombe la fin du mois. Je compte sur moi-même. Quand j'ai un problème, je réfléchis, je résous mon problème. Et en fait, Dieu n'a pas vraiment beaucoup de place dans ma vie. Je ne vis pas par la foi. Je ne me lance pas dans des choses impossibles. Je dis, ah non, ça c'est impossible, on ne le fait pas. Mais justement, Dieu aime les choses impossibles. Et Dieu nous envoie vers des choses impossibles. Pas seulement difficiles, mais impossibles. Parce qu'il veut se glorifier, il veut nous montrer son amour et sa gloire. Alors le peuple avait besoin de se préparer. Josué leur dit, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. La préparation est essentielle en toute chose. Savez-vous quand un athlète se prépare aux Jeux Olympiques? À quel moment? Dès qu'il a fini le précédent, il recommence à se préparer pour le suivant, c'est-à-dire 4 ans avant. Et c'est une préparation énorme. Énorme. Ce sont des gens, les nageurs, hein, ils nagent 6 heures par jour. Je ne sais pas si vous voyez ça. Déjà, quand on barbote 3 quarts d'heure, on en a assez, mais eux, c'est 6 heures de crawl. Hein, Et encore, avec ça, ils sont tout juste prêts. Hein. Et la préparation pour un concert, par exemple. Des musiciens vont travailler des mois, vont répéter ensemble, tout seuls, ils vont apprendre leur partition, les chanteurs vont apprendre leur texte, leur voix, leurs notes. Et des mois de travail, puis le concert arrive, ça dure 1 heure, c'est fini. Qu'est-ce qui a été le plus long dans l'histoire? La préparation. La préparation, c'est essentiel. Et nous avons besoin de nous préparer aussi, car demain, l'Éternel va faire des prodiges. Quand Dieu touchera des âmes et sauvera des personnes, est-ce que nous serons prêts à les accueillir, à les encourager, à les édifier, à les aimer? Il y a des églises où lorsqu'une nouvelle personne arrive, on est un peu dérangé. Ah, je ne connais pas celui-là. Qu'est-ce qu'il veut? Alors, on le regarde de travers, on ne dit pas bonjour pour pas qu'il s'éternise. Effectivement, la personne ne s'éternise pas. Un jour, elle s'en va. Est-ce que c'est ça une église où il y a l'amour de Dieu? Si une nouvelle personne entre, il faut aller vers elle et l'aimer, l'encourager. Si elle n'est pas sauvée, il faut lui parler de la bonne nouvelle. Il ne faut pas la harceler, évidemment. Mais on doit être des personnes comme le Seigneur Jésus, tournées vers les autres. Et pas seulement entre nous comme un club ou une société secrète hein, où tous les gens hein, sont initiés et puis les autres, faut rien leur dire. Non, justement, l'Église, c'est le contraire des sociétés secrètes. L'Église, c'est la société ouverte où on va vers les autres, où on partage le message. On ne veut pas le garder pour nous, on veut que tout le monde l'entende. Quand les ennemis de Dieu, et la Bible dit que les ennemis de Dieu sont surtout les esprits méchants dans les lieux célestes, mais souvent ils se servent d'autres êtres humains malheureusement. Quand les ennemis de Dieu nous attaqueront parce que nous apportons l'évangile, ne croyez pas que quand on annonce l'évangile, l'ennemi reste sans bouger. Il y a de la commotion, il y a du mouvement, il y a des contre-attaques spirituelles. Plusieurs peuvent témoigner hein, de contre-attaques spirituelles dans leur vie. Est-ce que nous serons prêts à ce moment-là, quand il y aura une contre-attaque? Parce que les contre-attaques, des fois, c'est comme une gifle. Hein? Vous ne vous y attendez pas, vous êtes dans une victoire. Oui, regarde ce qu'on a fait, regarde ce que le Seigneur a fait, c'est merveilleux. Et puis, paf! Mais c'est pas possible, d'où ça sort? C'est une contre-attaque de Satan. Est-ce que nous serons prêts ce jour-là à persévérer? À ne pas nous laisser déstabiliser, impressionner, à dire... Tu peux me gifler tant que tu veux, je vais y aller, je vais continuer. Et je vais te battre à plate couture, non pas moi, mais le Seigneur Jésus avec moi. Est-ce que nous serons prêts même à bénir nos ennemis? Alors là, c'est encore autre chose. Hein? Jésus a dit « Bénissez ceux qui vous persécutent. » Bénir nos ennemis. Il faut être prêt pour ça, il faut se préparer. Quand cette église grandira encore, parce qu'elle a déjà grandi, mais elle va grandir encore, est-ce que nous serons prêts à nous engager pour aider? Il faut aider avec les enfants. Il faut aider avec les chants, la chorale, avec la sono. Il faut aider avec la cuisine. Il faut aider avec plein de choses. Avec le stand biblique. Aller distribuer des invitations. Prier, les réunions de prière, combien c'est essentiel. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous serons prêts à soutenir la mission, à soutenir l'évangile, à continuer? Et si on devait avoir deux réunions le dimanche, est-ce que ça causerait une division dans l'église? Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises qui, à cause de leur nombre et de la taille de leur local, sont obligées de faire deux cultes le dimanche. Si ça devait nous arriver, est-ce que ce serait le scandale absolu? Ah, ça y est, l'église... Ou est-ce qu'on serait prêt à dire, bon, ben, on va le faire, toi tu vas à quel moment? Parce qu'on cherche à faire la volonté de Dieu et à avancer. Vous savez, quand on avance, il se passe des choses, il y a du nouveau, on quitte nos marques un petit peu, mais il faut suivre le Seigneur. Et quand on le suit par la foi, la vie est passionnante, la vie est exaltante, mais c'est vrai que la foi, c'est pas toujours rassurant au départ. Nous, on aime bien être rassurés, pouvoir dire, là, je mets mon pied sur du dur. Et la foi, c'est mettre son pied dans le vide. Sauf que c'est un vide apparent, parce que sous le vide, il y a la main de Dieu. Et la main de Dieu est plus solide que ce sol-là, que ce béton. La main de Dieu ne lâche pas. Le béton, il peut lâcher. Il peut y avoir un tremblement de terre. Mais la foi doit faire confiance à Dieu seul. Et ce n'est pas pour 2020 qu'il faut être prêt. C'est maintenant. Josué a dit, demain, l'Éternel fera des prodiges. Sanctifiez-vous parce que c'est demain. Alors qu'est-ce que ça veut dire sanctifiez-vous? Le mot veut dire se mettre à part. Se mettre à part pour Dieu, pour quelque chose. Là, c'est pour Dieu. Se consacrer à Dieu. Ça ne veut pas dire quitter son emploi, quitter tout et s'enfermer dans un monastère ou dans une maison pour prier. Ce n'est pas ça. Jamais l'évangile n'a parlé de ça. Jésus a dit « Je vous envoie dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle ». Donc, il ne nous demande pas de nous enfermer ou de tout quitter. Il a demandé à certaines personnes, ou à l'homme riche, « Vends tout et suis-moi ». Mais c'était à cet homme-là, ce n'est pas à tous les chrétiens de le faire. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de nous consacrer à lui, c'est-à-dire de le mettre en premier dans notre vie. De chercher sa volonté. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Et c'est ça souvent qui pêche chez nous. C'est que nous sommes prêts à voir Dieu dans notre vie, à avoir la bénédiction, mais il faut que Dieu fasse ce que moi je veux. Moi j'ai mes plans, moi j'ai ma volonté, j'ai mes projets, et j'espère que Dieu va bénir mes projets. D'après vous, quels étaient les projets d'un certain nombre de ces Israélites-là? La plupart avaient les chocottes. La plupart, ils auraient bien aimé rester le long du Jourdain. Comme ça, on a de l'eau. On aurait planté quelques champs le long du Jourdain. On ne fait surtout pas face aux ennemis. On ne traverse pas et on attend que Dieu nous bénisse. Et on ne bouge plus. Sauf que Dieu avait d'autres projets. Et son projet, c'est qu'il traverse. Et qu'ils avancent et qu'ils prennent le pays. Ça, c'est ça la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à le suivre? Pour ça, il faut se préparer, il faut se consacrer, dire Seigneur, voilà, il y a ce domaine de ma vie qui cloche. Ça n'est pas du tout à ta gloire ce que je fais là dans ma vie. Seigneur, je te remets ça. Seigneur, il y a ces décisions que j'ai prises qui ne sont pas dans ta volonté. Je reviens dessus. Il faut se garder pur. La sanctification, bien sûr, c'est d'être pur. Seigneur, il y a des péchés dans ma vie que je veux enlever, retirer. Il y a des choses futiles, inutiles. La Bible dit, tout est permis. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein? C'est dans le Nouveau Testament. Tout est permis. Le chrétien n'est pas sous une loi d'interdiction, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Et c'est à nous d'être sages par la sagesse de Dieu. Oui, je peux faire ce que je veux, mais est-ce que ce que je fais est édifiant, est utile, glorifie Dieu ou pas? Il y a des chaînes du péché qui nous lient, qui nous empêchent de traverser ce Jourdain et d'avancer. Le Seigneur veut qu'on se libère, qu'on laisse tout ça pour aller suivre l'arche de l'Alliance qui va entrer dans le Jourdain. Dans le reste du chapitre 3 et au chapitre 4, il y avait trois choses à faire maintenant pour le peuple. Ils devaient suivre l'arche dans le fleuve. Le fleuve a été arrêté, ils sont passés à sec. Ce qui symbolise qu'il faut mettre Christ en premier, il faut dire « Seigneur, je veux te suivre. Où veux-tu que j'aille? Montre-moi la route, je te suis, Seigneur. » Et si le Seigneur demande quelque chose qu'on ne veut pas, il faut être prêt à le suivre quand même. Je n'oublierai jamais, évidemment, quand le Seigneur m'a appelé au ministère. Je ne voulais pas être dans le ministère. Il y avait des étudiants de l'Institut dans l'église. Et je disais, eux, oui, moi, non. C'était clair dans ma tête. Pas pour moi. Et le Seigneur m'a appelé, c'est ce que je craignais le plus. Et puis quand j'ai dit oui, après beaucoup de tergiversations intérieures, j'étais libéré, j'étais heureux. Et le Seigneur s'est occupé de moi, de ma vie. Et je n'ai pas eu à me soucier de ces choses. Et c'était une merveilleuse bénédiction de le suivre. Mais il a fallu que je dise oui, je suis prêt à te suivre. Deuxième chose qu'il devait faire, c'est prendre des pierres dans le fond du fleuve et les amener dans le fond du fleuve. 12 pierres, une par tribu, et les poser au fond du fleuve. C'était le témoignage que maintenant leur vie passée était au fond du fleuve. Et c'est un peu comme le baptême. Hein. Le fleuve allait revenir et noyer ces pierres, ces témoignages. Ça veut dire notre ancienne vie est là, maintenant on passe à autre chose. On a une nouvelle vie. Et ils devaient ramasser 12 pierres dans le fleuve, c'est la dernière chose à faire, et les amener dehors et faire un petit autel de pierres pour se souvenir. Eh bien, des promesses de Dieu, de ses exaucements, que Dieu avait ouvert ce fleuve. S'ils avaient pu prendre ces 12 pierres, c'est parce que Dieu avait ouvert l'eau, miraculeusement. Et nous, on a besoin de se rappeler aussi des miracles de Dieu, du temps passé et qu'il veut reproduire, qu'il veut faire encore aujourd'hui. Dieu est le même. Alors, chers amis, frères en Christ, le Seigneur nous appelle à une nouvelle année, à de nouvelles choses. Il veut faire des prodiges, des choses extraordinaires. Est-ce que nous allons nous sanctifier, nous préparer? La préparation demande de l'effort, demande une consécration, de lire la parole, de prier, de se donner à Dieu petit à petit, un péché après l'autre, une chose après l'autre, et d'avancer et d'entrer dans la bénédiction. Si je reste dans mon train-train, je vais passer à côté de la bénédiction. Ce serait vraiment dommage. Parce que Dieu a des choses merveilleuses en réserve pour nous. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez jamais accepté Christ dans votre vie, ne passez pas non plus à côté, parce qu'il est venu vous chercher, vous aimer, et il veut vous pardonner, et c'est à vous maintenant de dire « Seigneur, je réponds à ton amour et à ta grâce ». Je vais demander au pasteur Delpech de venir maintenant pour conduire la Sainte-Seine. Si donc Jean les diacres